La troisième mi-temps Sud Radio.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme tous les lundis dans la troisième mi-temps Sud Radio, le podcast rugby pour revenir sur tout le week-end. Et le week-end fut riche, ça y est, le début des phases finales. Et pour en parler, Marius Louis-François. Bonjour Marius.
Bonjour Cyprien.
Bon Marius, les phases finales ont commencé avec les deux matchs de barrage, samedi dimanche, que vous avez vécu sur Sud Radio. Samedi, c'est le Racing qui est allé faire le gros coup à l'extérieur en s'imposant du côté du Hameau. 33-31 après un match épique, magnifique match de rugby de phase finale. Le Hameau qui était invaincu tout le long de la saison, qui est tombé au pire moment, très clairement. Ouais. Et samedi et dimanche soir, hier soir, c'était le Stade français qui a étrié La Rochelle 45-5. Ils n'ont pas fait dans la dentelle. On va analyser ces deux rencontres et on va se projeter sur ces deux équipes qualifiées pour les demi-finales. Toulouse qui recevra donc le Racing à Marseille vendredi soir et Montpellier Stade français samedi soir pour les demi-finales du top 14. Tout d'abord donc pour Racing, 33-31. Le Racing qui a fait le coup parfait, Marius. Ouais. Honnêtement, ils n'étaient pas passés loin en championnat de gagner. Ils s'étaient un peu inclinés dans les derniers instants. C'était pas passé loin non plus qu'ils repètent dans les dernières minutes, mais finalement, ils ont tenu bon ce résultat. 33-31, c'est le gros coup du week-end.
Ah bah c'est clairement le gros coup. Après, je trouve que le Racing a dominé quand même ce match. Le score est pas, il y a que 2 points d'écart, mais en fait, selon la physionomie du match, ils prennent un moment quand même beaucoup d'avance, les Racing Men.
Autour de la 50e, 2 essais autour de la 50e minute.
Exactement. Et puis les Palois reviennent petit à petit, mais je pense même pas que c'était vraiment un relâchement du Racing. Je pense qu'ils avaient tellement de points d'avance que le match s'est fait comme ça. Mais il y a pas eu, même si le score est serré, pour moi, il y a pas beaucoup eu photo en fait, et j'ai pas eu l'impression, parce que je parlais du fait que Pau avait peu d'expérience là-dessus, mais qu'ils avaient tenu le coup toute la saison, qu'ils avaient confirmé ce statut, pas de favori, mais d'équipe qui allait partir en phase finale. Et puis là, ils sont simplement tombés sur plus fort, quoi. Une équipe du Racing qui est arrivée conquérante, qui a concassé devant, qui a bien joué derrière. Carbonneau, ces derniers temps, il marche sur l'eau, et là encore une fois, il a été très très bon. Il y avait aussi les choix du banc, d'avoir Ficou et Tuisova sur le banc, qui font des très très bonnes entrées. Donc voilà, pour moi finalement, même si j'avais dit que je voyais Pau, hein, je me suis encore trompé. C'est pas la première fois ni la dernière fois que je me trompe sur les pronos.
On t'en tient pas rigueur.
mais voilà, c'est aussi il y a une certaine forme de logique, et le Racing continue sur sa bonne lancée et va être dur à prendre, et je pense que ça va donner une demi-finale très très intéressante face à Toulouse.
On va en parler après du Racing, du Stade français particulièrement. On espère que les Toulousains ne t'en voudront pas quand tu te tremperas également peut-être le week-end prochain pour le pronostic, et on espère que ça ira dans le bon sens cette fois-ci pour toi, on te le souhaite. Mais j'espère. C'est vrai que les Palois, on les a sentis peut-être, c'est des matchs différents de la saison régulière, on a senti peut-être un petit manque d'expérience, des petites erreurs, peut-être pas assez de la pression. Le Hameau était plein, une ambiance volcanique du côté de Pau, et c'est surtout le projet de jeu du Racing était très clair, saisir toutes les opportunités, jouer avec beaucoup de vitesse, et surtout, quel défi physique, quelle puissance montrée par les Franciliens et Colazo. Et honnêtement, et ben là-dessus, ils nous ont vraiment impressionnés.
Bah complètement. Moi, je trouve même pas tant qu'ils avaient, parce que ils font un bon, ils tentent quand même un retour, les Palois, sur la fin du match. Ils sont dans le coup. Moi j'ai vraiment juste la nette impression qu'ils sont tombés sur plus fort. Le plan de jeu du Racing était parfait. La stratégie face aux Palois menée par Colazo et tout son staff a été complètement fonctionné. Ils ont réussi à prendre les Palois sur leur force, j'ai l'impression. Et puis à leur imposer en fait le tempo. Alors imposer un défi physique costaud, on sait que les Palois, il l'avait dit Colazo, ils sont bons sur ballon porté, la preuve en est, ils ont marqué un essai, peut-être je sais plus combien, mais enfin ils ont marqué en tout cas sur ballon porté, mais devant les Racing Men ont été plus costauds. Ils ont dicté leur jeu. Moi, je trouve vraiment, même si le score est très serré, c'est normal, c'est dur d'aller gagner à Pau. Ils n'étaient pas tombés de la saison. Mais si on refait le match 10 fois, je me demande si Racing ne gagne pas 9 fois sur 10. Quoi.
En effet, en tout cas, ça va leur servir d'apprentissage.
Oui, la saison est pas ratée pour autant. Hein, c'est très très bien.
C'était l'objectif. Je pense que peut-être avec une meilleure gestion en fin de championnat, ils auraient pu aller chercher une demi-finale directement. C'est peut-être le petit regret, parce que c'est eux qui ont été deuxième le plus longtemps de la saison derrière le Stade Toulousain. Donc là-dessus, il y a un petit regret pour les Palois.
Mais ils n'ont pas à rougir.
Néanmoins, énormément d'expérience prise pour cette équipe qui va continuer à grandir avec Piqué, Rony, mais on pense au Broboiri, à Tissokbé, à Harfeuil, Grand Didier, Gailleton, tous ces joueurs-là de talent qu'ils ont derrière vont prendre de l'expérience et c'est des matchs qui servira forcément dans l'avenir. On espère qu'ils pourront sortir une aussi belle saison la saison prochaine. Du côté du Stade Français, La Rochelle, eh bien les Rochelais étaient dans une dynamique de feu. Eh bien, ils ont été douchés très clairement par le Stade Français qui ne leur a laissé aucun répit. Au bout d'une demi-heure de jeu, 150 plaquages Rochelais, 12 pour les Parisiens. Ça montre l'écart qu'il y a eu en touche, en mêlée, dans les avancées. On n'a pas reconnu les Rochelais et surtout, on a vu un très grand Paris.
Très grand Paris, ouais, ça c'est certain. Les Rochelais, ils ont été martyrisés, il n'y a pas d'autre mot.
Apathiques.
Ils se sont fait déboîter dans tous les compartiments du jeu. Moi qui parlais généralement de dynamique et de la fraîcheur du moment, eh ben finalement le choix parisien de reposer les cadres a été bon parce qu'ils sont revenus morts de faim. Ils les ont déboîtés, c'était tout simplement une leçon de rugby. Alors je sais pas s'il y a pas aussi peut-être... avec ce marathon qui se sont collés les Rochelais, ils étaient peut-être un peu essoufflés quoi sur la fin. Mais quand bien même, je pense que même Frey, un stade français qui joue comme ça, c'est quand même dur à prendre.
Il y a eu des blessures aussi, deux blessures rapidement pour les Rochelais, Sclavi et Kanté Samba. Je dis pas que ça aurait changé grand-chose, mais c'est là où on voit que la fin de carrière d'Antonio, la blessure au talon d'Achille de Skelton, ce genre de choses dans le défi touche, mêlée, contact, pèse sur ces matchs-là. Les Parisiens avaient ciblé également les Rocs avec beaucoup d'engagement, quelques ballons récupérés, grattés, et puis surtout les Parisiens. Ils ont fini deuxième attaque derrière Toulouse sur la saison régulière. On comprend pourquoi, parce que sur les ballons de récup, ils ont
ça va très vite.
Ça se projette très vite. Un Léo Barré très en canne derrière Ward qui est tonitruant et puis les ailiers Marchand d'un côté, Dakou Waka. Honnêtement, le match contre Montpellier la semaine prochaine risque d'être l'un des matchs les plus serrés, les plus difficiles à pronostiquer.
Ah ouais, là ça va être quelque chose parce que exactement comme tu dis, se projette très très vite les Parisiens, le moindre ballon offensif, ça va à 2000 à l'heure, c'est cadré, ils savent ce qu'ils font. En face, il y aura Montpellier, qui est une équipe qui défend très très bien, qui défend très très fort. Donc à voir, je pense que la stratégie de ce match, elle va être là-dedans, soit en la capacité des Parisiens d'arriver à contrer ces défenses, cette défense agressive montpelliéraine, soit la capacité des hommes de Johan Codulo à arriver à bloquer toutes ces envies d'écarter puis toutes ces petites attaques parisiennes qui sont très très rapides et très efficaces et on l'a vu hier. Après il y a aussi un côté La Rochelle, et comme je disais, j'avais l'impression ils ont comme été émoussés à l'image d'un, parce que effectivement ils ont perdu des cadres, il y a eu des blessures, mais il restait un Le Garec qui marche sur l'eau ces derniers temps. Là Le Garec hier, force est de constater qu'il était pas là. Il rate même une transformation qui est clairement dans ses cordes, et je pense que c'est ils y étaient plus, les
45
mecs.
À 5 avec pas mal de points laissés au pied en plus par Louis Carbonel, ce qui aurait pu amplifier, on aurait pu passer la barre des 50 très largement pour les Parisiens. Question du coup, on en parlera avec les compositions vendredi prochain, juste avant la première demi-finale dans le podcast, la troisième mi-temps. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre des Parisiens et des Franciliens? Est-ce que ces deux équipes peuvent être la surprise de ces phases finales? Alors, pas dans le même registre, mais on a l'impression que ces deux équipes qui vont être très pénibles à jouer pour Toulouse et Montpellier.
Très pénibles, très 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 pénibles. Je pense que je mets le Stade Français un peu plus pénible à jouer.
Plus complète peut-être.
Ouais. C'est-à-dire que offensivement, je la trouve plus rodée offensivement que le Racing. C'est vrai que les deux vont être très 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 embêtantes à jouer. C'est sûrement, je dois avoir avec la magie du moment, même si le Racing m'a fait une très très belle impression, le Stade Français a tellement déroulé que j'en viens à me dire, est-ce que ce serait pas en quelque sorte des outsiders pour ce titre à la fin? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que la demi contre Montpellier, elle va être énorme. Même la demi Toulouse Racing va être très 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 intéressante. Mais
plus déséquilibré pour toi sur le papier. Mais
Je dirais. Moins équilibré.
C'est ce que je te disais avant l'enregistrement du podcast. J'ai l'impression, pour autant, que cette équipe du Racing va être plus embêtante pour Toulouse que n'aurait pu être la section paloise.
Oui.
La section paloise envoie beaucoup de jeux avec beaucoup de vitesse. C'est un jeu qui peut complètement correspondre à Toulouse sur notamment les les ballons de contre-attaque, les ballons de turnover où Toulouse peut vraiment être très bon. Le Racing, ça tape fort, c'est brutal, c'est frontal. Les Abossi, les Tuisova, les Meniarara qui est le troisième ligne, les Demba Bamba maintenant qui a été très bon.
Demba Bamba qui avait fait une super course.
Une super course. Et puis voilà, après, là où ça peut pêcher pour le Racing, c'est que cette charnière qui est en ce moment très en forme, Carbonneau, Gibert,
elle peut passer à côté.
Elle peut passer à côté. Et c'est pas ce qu'on souhaite évidemment aux Franciliens, mais c'est là-dessus qu'on va les attendre. Si la charnière est au rendez-vous, cette équipe du Racing peut très clairement poser d'énormes problèmes au Stade Toulousain.
Ah bah c'est ce que j'allais dire. Les Toulousains, s'ils veulent gagner cette demi, ça va passer par devant déjà. Une défense forte, aller en fait répondre tout simplement aux défis physiques des Franciliens. Et puis arriver à cadenasser cette charnière. Mais ce que peuvent très bien faire les Toulousains, hein, à l'image d'un Willis qui peut être un poison tout le match et complètement sortir un Carbonneau, ne pas le lâcher d'une semelle et le faire sortir de son match de manière légale, hein, j'entends, mais être toujours là. Willis sait très bien le faire. Mais voilà, les Toulousains, après, en fait, finalement, les Toulousains, ils peuvent aussi faire comme ce qu'a fait le Stade Français, c'est-à-dire que là, ça fait un moment qu'ils se reposent. Alors certes, on n'a pas vu Toulouse avec sa plus grosse équipe depuis longtemps, on les a pas vus carburer depuis longtemps, mais voilà, il y a aussi cette sorte de d'euphorie de fin de saison. Ils étaient persuadés, enfin, ils étaient sûrs d'être dans les deux premiers. À partir de deux ou trois journées, ils étaient sûrs d'être premiers. Tu joues jamais le match de la même manière. T'es toujours là, plus tendre, plus. Peut-être qu'il y avait une peur de se blesser, je sais pas, ou vouloir se reposer, jamais l'équipe type. C'est juste là, les mecs, ils vont être frais, ils vont arriver morts de faim.
Ils vont être frais,
possiblement.
Ma question, c'est que le Racing a un match référence.
Ouais.
Le match référence, c'est contre Pau cette semaine, ce week-end. Match référence à l'extérieur, dans un contexte compliqué, victoire en phase finale, match référence. Toulouse, le dernier match référence de Toulouse avec l'équipe type, elle date de quand?
Je sais pas, mais je pense qu'elle date en fait de tout simplement la dernière fois qu'ils ont mis l'équipe type.
Et donc du coup, ça remonte à très loin. Ça remonte, et encore une fois, la dernière fois qu'ils ont mis l'équipe type, il me semble qu'ils ont perdu le quart de finale de Champions Cup. Donc c'est là où je suis plus inquiet. J'ai l'impression que en effet, Toulouse sur le papier est favori.
T'as pas tout à fait le.
Mais il y a moins le sentiment que Toulouse est intouchable.
Non. Qu'il y a plus sûr que non.
Qu'on pouvait avoir ces dernières saisons où on se demandait, même en début de saison, on se demandait. Qui va être l'équipe capable d'arrêter Toulouse? Là, on se dit que les cartes, elles sont peut-être un peu plus rebattues que ce qu'on pouvait imaginer il y a quelques semaines ou quelques mois.
Ouais, mais malheureusement, malheureusement ou heureusement, ça dépend de son point de vue. Mais j'ai l'impression que les Toulousains, de toute façon, ils arrivent, peu importe le contexte, à se bonifier.
Ouais.
C'est-à-dire que effectivement, on les attend peut-être plus, et je pense que leur stratégie va résider en cela, c'est-à-dire que on attendait plus Stade Toulousain. Bah, vous allez voir, les gars, on est de retour, on est là et c'est carré. Mais quand bien même, ils auraient été ultra favoris. Aussi, quand ils sont ultra favoris, à l'image de la finale il y a deux ans, ils sont ultra favoris et ils tabassent Bordeaux et ils les humilient. Et parce qu'ils sont ultra favoris, ils veulent répondre à cette image-là. Donc, ils arriveront certainement, hein, je pense. En fait, j'ai du mal à voir, je me mets à la place de si je devais miser quelque chose, miser gros. Je resterai sur Toulouse, je pense. Mais voilà, c'est sûr que c'est pas fait, c'est pas aussi certain que ces dernières années, c'est moins carré. Il faudra voir tout simplement. Je le redis, ça va être une sorte de bataille de charnière. Bon, Ntamack était plutôt en forme, mais en fait voilà, les Toulousains soit ils arrivent à maintenir cette charnière et ils répondent aux défis physiques devant. Et c'est là que ça peut un peu pêcher, parce qu'à part Willis, effectivement, ces derniers temps devant, on a un François Cros qui est un peu en deçà, qui peut-être en manque de rythme, qui est peut-être sur une fin,
douleur toujours apparemment.
Il y a une première ligne qui cette saison est pas là, mais pas au firmament.
C'est quoi ta première ligne type
de Toulouse? C'est du Cyril Bail, mais d'il y a plusieurs années.
Non, cette saison. C'est quoi ta première ligne?
Elle est compliquée. C'est un Marchand. Marchand qui a été un peu critiqué, mais qui pour moi reste la satisfaction de la première ligne. Après, les piliers, c'est compliqué. Ça va être du David Aynou, je pense.
Ah ouais? Devant Malais.
Ouais. Sur une demi-finale, ouais.
Ok. Et derrière, en 3, tu mets qui? Aldeguerri? Merclerc?
Ouais.
Tu vois, c'est là
Aldeguerri, il est vraiment au moment du dilemme, quoi.
C'est là où moi, je déjà, est-ce que Antoine Dupont sera remis? On n'a pas encore les infos.
Un Neti peut-être. Neti, je sais plus s'il est droit ou à gauche, Neti.
Mais tu vois, genre, j'arrive pas à voir. J'ai pas le 15 type comme ça qui me vient naturellement pour le Stade Toulousain. Il y a des postes, évidemment, tu te poses pas de questions. Le poste de 15, le poste de 10. Le poste de 9, ça va dépendre de la forme d'Antoine Dupont, mais théoriquement c'est lui, sinon c'est Graou et c'est pas trop mal non plus.
Graou qui a été au centre dans notre équipe type de la saison, donc.
Mais c'est qui au centre?
Au centre c'est Gourcq Barassi.
Donc pas de Choco Barès.
Pas de Choco Barès. À voir peut-être. En fait, tout dépend de l'équipe d'en face.
Mais c'est ça, tu vois ce que je veux dire, parce que
c'est-à-dire si contre le Racing, je mets sûrement Choco Barès finalement.
Mais du coup contre Pau, t'aurais pas mis Choco Barès.
Non,
c'est là où je te dis que
non,
du
contre
coup,
Pau, j'aurais pas mis Choco
Barès.
Exactement.
C'est là où je te dis que potentiellement le Racing est peut-être la pire équipe à prendre pour Toulouse.
C'est possible, c'est possible. Et après, juste un dernier truc pour conclure. Thomas Ramos a fait des performances moyennes ces derniers temps.
Oui, le compétiteur qu'il est.
Je le vois mal arriver en demi et foirer son match.
Je suis assez
ça fait tellement de fois les trois coups de pied ratés.
C'est pas dans son ADN. Ouais, voilà. Stade français Montpellier, est-ce que le Stade français peut vraiment créer la surprise? Grosse mêlée, grosse défense. Moi, c'est la défense hier qui m'a vraiment impressionné.
Ouais.
Pas de consommation dans les rucks inutiles, des ballons récupérés et surtout des pattes, là où le Stade français n'était pas forcément la meilleure équipe il y a quelques années et encore la saison dernière ou il y a deux ans quand ils sont qualifiés directement en demi-finale avec une grosse attaque. Là, Carbonel pour mener l'attaque avec derrière des Ward, des Néné, des Vili, des Marchand, des Dakouaka, des Barré. Honnêtement, face à Montpellier, même si Montpellier a une semaine de break et elle est dans une très bonne saison, le Stade français, ça peut être vraiment le poison de ces phases finales.
Bah complètement, complètement. Là, s'ils refont le même match, bon, il y aura sûrement plus d'intensité. Il faudra peut-être le tenir plus aussi, parce que c'est pas, sans manquer de respect au Rochelet, ils étaient, comme j'ai dit, un peu émoussés. Là, ça va être beaucoup plus en frites côté Montpellier. Mais ça peut être un super match. Un super match parce qu'en fait là où le Stade français pour moi peut dépasser Montpellier, c'est que Montpellier est très défensivement et très costaud. Les mêlées, ça va être des vrais combats, tous les rucks, ça va être des combats. Mais Montpellier pour moi a une capacité offensive un peu plus faible que celle du Stade français. Donc le Stade français peut jouer là-dessus, c'est-à-dire presque cadenasser le match. Leur répondre vraiment devant, être fort, être costaud, ne pas se laisser embourber, et puis sur deux trois actions t'écartes vite et là tu fais jouer les forces vives des arrières et tu remportes le match là-dessus.
On débriefera évidemment
la discipline.
On débriefera évidemment ces demi-finales vendredi dans le podcast La Causerie, les compositions plus en détail avec également Quentin Cabanis qu'on salue. Mais néanmoins, dernière question Marius sur le Stade français, est-ce que pour toi c'est la grosse cote de ces phases finales? Est-ce que le Stade français a une tête, une équipe de champion?
Ah oui. Bah pour moi il y a quatre équipes. Mais alors il y a quatre équipes qui peuvent être championnes. C'est un peu con ce que je dis, mais
c'est le principe des demi-finales.
Oui, mais il y a des fois il y a un invité, un truc. Là il y a pas vraiment d'invité surprise.
Merci Marius.
Non mais c'est pas vrai. Il y a pas vraiment d'invité surprise. Je veux dire des fois il y a des mecs.
Par exemple Bayonne l'année dernière en demi-finale.
Voilà. Bayonne c'était les enfants à la table du mariage qui viennent à table qui se décalent pour aller voir les parents.
Invités voilà, sur la table
qui prennent leur première cuite. Mais tranquille. Mais non, il y a quand même que des gros. Après les équipes taillées pour être champions, je vois Montpellier, Stade Français et Toulouse quand même devant le Racing. Mais tout le monde peut l'être. Après, c'est ce qu'on évoquait avant le podcast. Toulouse quand même, moi ce que je vois c'est que Toulouse, le Racing, s'ils veulent jouer à leur va-tout, c'est vraiment maintenant. Parce que Toulouse en finale, malheureusement, c'est pas du Rafael Nadal à Roland Garros, mais pas loin quoi. Ouais, donc c'est très très dur prendre le Stade Toulouse
en finale. C'est compliqué.
Mais voilà.
Marius, on débriefera évidemment un petit mot rapide parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, mais Perpignan se maintient
en
top 14 face à Provence Rugby. Perpignan qui a eu besoin quand même de quelques individualités. On pense notamment à Yato qui a fait un match
exceptionnel.
Le deuxième ligne, troisième ligne perpignanais, et ça fait quatre années de suite que Perpignan se maintient sur les access match. Ils savent maîtriser ces matchs là il faut juste maintenant espérer pour eux qu'ils arrivent à vivre une saison sans connaître ça. L'année prochaine, le top 14 avec Vannes, du coup, risque d'être très relevé et tous les matchs
plaisiront
parce qu'il n'y aura pas une équipe, je pense, comme Montauban cette année qui va être vraiment en dessous et qui va se détacher pour descendre directement. Mais Perpignan, t'as fait une forte impression quand même pour finir face à Provence Rugby.
Bah, ils m'ont fait une forte impression, oui, mais ils m'ont fait l'impression à laquelle je m'attendais. C'est-à-dire, Provence a fait ce qu'ils pouvaient.
Et ils font une grosse première mi-temps.
Ils font une grosse première mi-temps, malheureusement, c'est là que tu vois la différence entre
trop
le niveau top 14, Pro D2. Peut-être un peu de fatigue.
Des approximations, les pénalités vite jouées, deux essais comme ça. Honnêtement, à ce niveau-là, ça part.
Non. Puis les Perpignanais, ils étaient en mission.
Ah,
Mathieu Acebès nous l'avait dit la veille. Ils nous l'avaient dit sur Sud Radio, ils étaient en mission, quoi. Ils étaient là pour ça, ils voulaient pas décevoir tout un peuple, toute une région, donc.
Ils l'ont pas déçu. Et Provence Rugby, du coup, va devenir un candidat crédible l'année prochaine.
Bah, sûrement le favori.
Continue à monter avec Brive. Je pense Brive, Oyonnax, Agen, Colomiers, comme d'hab cette année. Je pense que c'est un peu les équipes qui se détachent. Il y a pas un gros club qui descend et donc.
C'était le souci. Si à l'inverse d'un Montauban cette saison, si Perpignan descendait, on était quasiment sûr de. Alors, on peut se tromper, hein.
Pas sûr, mais on voyait Perpignan caracoler en tête comme a fait Vannes cette année.
Exactement.
Et voilà. Mais en effet, Vannes rejoint le top 14, Perpignan y reste. Et demi-finale, vendredi, samedi prochain, vive sur Sud Radio. Vendredi, le podcast La Causerie. D'ici là, vous pouvez suivre toutes les informations rugby sur sudradio.fr, l'application Sud Radio et sur les réseaux sociaux Sud Radio Rugby.
Et le petit mot de la fin, puisqu'on est la radio du rugby, mais de tous les rugby, je voudrais saluer et féliciter l'équipe de Saint-Sulpice-sur-Lèze, pas trop loin de chez moi, qui est championne de Fédéralune.
Face à Peyrehorade.
Exactement.
Et j'en profite pour dire bravo aux cadets nationaux de Vincennes qui ont été champions de France également en battant le Stade Nantais ce week-end. Très bonne semaine rugby sur l'écoute de Sud Radio.